Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 2h en temps universel, 4h à Tel Aviv.
Pierre Boudias.
Et l'Ukraine appelle la communauté internationale à réagir après un tir de missile hypersonique russe, une première confirmée par le Kremlin qui menace de frapper les alliés occidentaux de Kiev. Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'utiliser son pays comme terrain d'essai. Benjamin Netanyahou, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, la Cour pénale de La Haye accuse le premier ministre israélien de crimes de guerre et contre l'humanité, décision qui provoque la colère en Israël. En RDC, l'enquête avance dans l'affaire du saccage du mausolée Patrice Lumumba, le lieu de mémoire vandalisé. En début du mois, à Kinshasa, la police annonce avoir procédé à plusieurs arrestations. Et puis la réédition d'un album culte, celle de Broken Shoes du sud-africain Almon Memela. Et vous l'entendrez, l'œuvre du pionnier de l'afro-funk n'a pas pris une ride. La ville ukrainienne de Dnipro, touchée par un missile hypersonique russe, frappe hier confirmée par Vladimir Poutine et qui n'a pas fait de dégâts majeurs. Selon Kiev, le Kremlin évoque un test réussi et justifie l'apparition de cette nouvelle arme par l'utilisation de missiles longue portée russes et américains. Correspondance en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Volodymyr Zelensky a pris la parole ce soir pour dénoncer cette nouvelle attaque russe. Le président ukrainien affirme que la Russie se sert de l'Ukraine comme d'un terrain d'entraînement pour ses armes et que le missile utilisé présente toutes les caractéristiques, vitesse, altitude, d'un missile balistique intercontinental. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a quant à lui déclaré attendre les conclusions des experts pour établir s'il s'agit effectivement du premier emploi de missile balistique intercontinental lancé en Ukraine. Sur ce dernier point, en Occident, on ne s'avance pas sur ce missile. Des officiels américains sous couvert d'anonymat parlent d'un missile de moyenne portée, mais cette frappe intervient dans un contexte d'escalade après que la Russie ait repris ses frappes à grande échelle sur l'ensemble de l'Ukraine. Dimanche, plus de 200 missiles et drones ont à nouveau visé le secteur énergétique du pays. Mercredi, plusieurs ambassades ont fermé leurs portes à Kiev en raison du danger élevé de nouvelles frappes russes. On s'attend ici chaque jour à une démonstration de force de la part de Moscou en réponse à l'usage par l'Ukraine des missiles à moyenne et longue portée britanniques et américains sur le territoire russe. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Et dans une adresse à la nation, Vladimir Poutine estime que la guerre en Ukraine a désormais pris une dimension mondiale. Le président russe assure ne plus exclure de frapper les alliés occidentaux de Kiev qui lui fournissent de l'armement. France et Royaume-Uni se disent décidés à ne pas laisser Moscou réécrire l'ordre international. Côté américain, la Maison-Blanche estime que la Russie est seule responsable de l'escalade en cours en Europe de l'Est. Les États-Unis, qui par la voix de leur président Joe Biden, jugent scandaleuse la décision de la CPI, la Cour internationale basée à La Haye, a émis hier des mandats d'arrêt contre 3 responsables impliqués dans le conflit au Proche-Orient. Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant et le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif, sont soupçonnés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le premier ministre israélien dénonce une décision antisémite, position largement partagée en Israël, où cette annonce a provoqué une vague d'indignation. Écoutez le témoignage de Zalman, un Israélien interrogé par notre correspondant Sami Bourelifa.
Il est très clair que la CPI, comme beaucoup d'institutions internationales, a outrepassé ses prérogatives. Ces institutions se croient tout permis. De plus, ils mettent sur le même plan nos dirigeants et un chef du Hamas. C'est une manière assumée d'établir une équivalence et dire « c'est comme s'ils étaient tous dans le même panier ». Mais le plus important pour moi en tant qu'Israélo-Américain qui s'est installé ici il y a 40 ans, c'est que les États-Unis soutiennent Israël de manière inconditionnelle dans ce dossier.
Et plusieurs pays ont déjà annoncé qu'ils se conformeraient au droit international en interpellant les mises en cause en cas de déplacement sur leur sol, parmi eux l'Espagne mais également l'Italie qui dit cependant regretter ce mandat d'arrêt. RFI, il est 3h04 à Kinshasa, la capitale congolaise où l'enquête se poursuit après le saccage du monument rendant hommage au premier ministre Patrick Lumumba, le lieu où se trouve le cercueil qui doit normalement accueillir sa dent. Dernière relique du héros national a été vandalisée en début de semaine. Les autorités assure qu'une enquête est en cours et des arrestations ont déjà eu lieu. Sur place, correspondance Paulina Zidi.
Assez peu d'informations n'ont pour l'instant filtré sur l'enquête et les autorités judiciaires évoquent le secret de l'instruction. Il a été rendu public que 6 personnes avaient été arrêtées. On ne connaît pas le motif de ces arrestations. Selon une source proche du dossier, les suspects seraient les policiers présents sur les lieux au moment des événements et ils sont détenus pour raison d'enquête. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a ajouté que la police était à la recherche d'au moins deux autres personnes et qu'il espérait une arrestation prochaine. La ministre de la Culture ajoute pour sa part déclarer suivre le dossier de près. Elle se dit choquée par cet acte qui vise, je cite, à désacraliser la figure de Lumumba, un monument pour les Congolais. Yolande Elébé assure que depuis, des mesures de sécurisation du site ont été prises et qu'après le temps de l'enquête viendra celui des réparations. Un mausolée qui n'accueillait pas la dent de Lumumba. En effet, depuis son retour au pays, il y a un peu plus de 2 ans, la famille estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour entreposer la dernière relique dans le cercueil. Elle a plusieurs fois demandé à récupérer la gestion du site. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Haïti dénonce les propos inamicaux et inappropriés du président français. Réaction du ministre des Affaires étrangères après qu'Emmanuel Macron ait critiqué dans des termes très durs la récente éviction du premier ministre haïtien Gary Coville. Décision absurde selon le locataire de l'Élysée qui estime que les Haïtiens ont eux-mêmes tué Haïti. Propos inacceptables selon le gouvernement de l'île qui a donc convoqué l'ambassadeur français. C'était hier soir. La France, où le premier ministre a clôturé ce jeudi le congrès de l'AMF. En y prononçant un discours, il a tenté d'apaiser la colère des élus locaux opposés aux économies que veut leur imposer le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances. Un exercice périlleux et une opération apaisement pas tout à fait réussie pour le chef du gouvernement, Charlotte Urien-Tomaka.
Certains maires l'attendaient de pied ferme. Dans le contexte d'économies budgétaires et de fortes tensions avec les élus locaux, la visite de Michel Barnier relevait plus de l'opération séduction que de la visite de courtoisie. Le Premier ministre l'a rappelé à plusieurs reprises, il ne sait pas combien de temps il restera à Matignon et le projet de loi de finances de 2025 a été réalisé dans un cadre inédit. Michel Barnier.
Jamais un Premier ministre depuis 65 ans n'a eu 15 jours à peine pour préparer le budget. Je dis simplement la vérité. Et donc ce budget, il n'est pas parfait. Il comporte parfois des injustices ou des points qu'il faut revoir.
S'il a tenté de rassurer les édiles.
Vous avez dit avec beaucoup de force la blessure qui a été celle de tous les élus locaux d'entendre dire que si la France était en déficit, c'était leur faute. Vous ne m'entendrez pas dire ça, parce que je ne le pense pas.
Il n'est pas revenu sur les économies qu'il leur demande de réaliser. Pour le président de l'AMF, David Lisnard, le compte n'y est pas vraiment.
La suite dépendra de ce qui va sortir de la discussion budgétaire au Sénat. Je comprends que le Premier ministre n'ait pas voulu entraver... La discussion au Sénat et je pense qu'il marche sur des œufs.
Mais Michel Barnier s'est engagé à venir faire le bilan des mesures proposées en 2025 au prochain congrès de l'AMF s'il est toujours Premier ministre d'ici là.
Et puis de la musique pour terminer ce journal, un avant-goût de notre choix musical du jour. Ce matin, c'est l'un des pionniers de l'afro-funk, le sud-américain Almon Memela et son deuxième album rare, Broken Shoes, réédité plus de 40 ans après sa sortie. José Marinho.
C'est l'histoire d'un guitariste virtuose, autodidacte et militant anti-apartheid. Almon Memela est né en 1936 en Afrique du Sud. À 20 ans, ce jeune noir travaille dans les mines, mais ne tarde pas à faire son trou dans la musique. En 1964, il crée son groupe et 11 ans plus tard, publie son premier disque, Funky Africa. Mais c'est surtout son deuxième album, Broken Shoes, sorti en 1976, qui marque un tournant dans sa carrière. Projet révolutionnaire pour l'époque, il ne comporte que 2 titres de 15 minutes chacun. Émergence d'un son futuriste, subtilité des harmoniques, rythme imparable, son jeu de guitare atteint des sommets. La réédition de ce trésor de funk méconnu, 48 ans après sa sortie, rend justice à Almon Memela tout en propulsant ce visionnaire sud-africain dans une autre dimension, celle de la musique moderne du 21e siècle.
Marinho qui nous faisait redécouvrir l'album Broken Shoes d'Almon Memela, sorti de l'oubli par le label canadien We Are Buzzy Bodies. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos programmes continuent sur RFI.